Pulsar.
Petite recette du jour, des pointes des pointes d'épinards cueillies fraîchement avec du chèvre chaud, des petits croutons et par-dessus, pour finir, un filet d'huile de cameline. C'est le top.
Cuit du cru.
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 C'est cuit ou c'est cru ?
Bonjour à tous. Nous sommes le 25 avril, il est à peu près midi, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 dans l'émission Cuit du cru. Mais c'est quoi Cuit du cru ? Cuit du cru, c'est un rendez-vous bimensuel qui a pour but de mettre en valeur les acteurs de notre département. Du producteur à l'agriculteur, du cuisinier au fromager, du pâtissier au boulanger, du caviste au brasseur. On va parler de tout, de leur quotidien, de leur métier, des étapes de fabrication à la distribution. En gros, c'est un vie ma vie. À Cuit du cru, il y a aussi des recettes, des débats, des micro-trottoirs, du local dans votre assiette avant l'heure de la sieste. Les semaines impaires. Bonjour, bonjour, rebonjour. Wasabi, comment vas-tu ?
Bah, très bien.
Ça va ?
Bah, très bien.
On va pas parler du temps. Hein.
Non, non.
Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. Nous avons monsieur Vévien Christophe.
Salut tout le monde.
Notre chroniqueur.
Eh oui.
Tu vas bien ?
Fidèle au poste.
Fidèle au poste. Alors aujourd'hui, on est avec Béatrice Martin.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Très bien.
Alors, il y a deux semaines, on avait reçu
Isabelle.
Vous êtes de la même famille, peut-être ?
Ah non, on dit qu'il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin.
Alors, l'exploitation ferme d'Anna.
Oui, c'est ça.
Pourquoi ? Ferme d'Anna, ça veut dire quelque chose ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ?
Alors, Dana, c'est la déesse irlandaise de la terre. Donc, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur parce que nous accordons beaucoup d'importance à la terre qui est notre source et nous nourrit.
C'est pas dans la vallée de Dana, d'où la chanson, rien à voir.
Ça en vient.
C'est des similitudes. Alors, vous venez de Senillé.
Senillé, oui.
À côté de Châtellerault.
À l'est de Châtellerault.
Donc, vous faites des huiles, vous produisez de l'huile, c'est ça ?
Oui, de l'huile et aussi de la viande.
Alors, c'est comme tout, hein, c'est un vie ma vie, cuit du cru, je vais poser toujours les mêmes questions. Comment c'est venu ce métier, en fait ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Est-ce que tu as fait des études ou est-ce que c'est reprise de l'exploitation des parents ?
Alors, oui, j'ai fait des études agricoles, mais j'ai quelques cheveux blancs maintenant, donc ça fait un moment. J'ai travaillé dans le para-agricole. Quand on dit para-agricole, c'est les organismes qui accompagnent les agriculteurs autour. Et mon mari s'est installé en 1993. Et puis bon an, mal an, voyant les choses, travaillant toujours pour les autres, à un moment donné, j'ai dit, bah non, on va passer le cap. Et en 2014, je me suis installée sur une exploitation à côté. Qui était dans une plaine céréalière et moi j'ai tenu à mettre en place de l'élevage. Et ensuite on a regroupé les deux exploitations parce que lui il était uniquement en céréales et dans le cercle vertueux, l'élevage apporte la matière organique et dans la rotation on peut introduire des prairies pour nourrir l'élevage. Donc on a réinstallé ce qui était au départ... Lui, à l'époque de ses parents, où il y avait une cinquantaine d'hectares et puis une trentaine d'animaux. Donc on a reconstruit un petit peu le même modèle.
Alors moi j'ai envie de te poser une question, si vous faites de l'huile, comment on fait de l'huile ? Parce qu'on en utilise tous les jours à peu près, ou du beurre, ça dépend de la matière grasse, mais comment on fait vraiment ? Isabelle nous a raconté des petites histoires sur le tourteau il y a deux semaines, comment on fait vraiment l'huile ? Comment les étapes de fabrication ?
Alors, là, moi, je vais vous parler des huiles fermières, qui
D'accord.
est une fabrication totalement différente que les huiles industrielles. L'huile fermière, on récolte les graines, on les trie dans un premier temps, parce qu'on est en agriculture biologique et parfois, dans les champs, il n'y a pas que la plante que l'on désire qui pousse, on a aussi les autres. Donc, on trie la graine, on la stocke pendant 4 à 5 mois. Pourquoi ? Parce qu'on a ce phénomène qui s'appelle la dormance. C'est-à-dire que l'huile va se concentrer dans la graine pour apporter l'énergie ensuite à la plante de germer. Donc on ne peut pas faire de l'huile directement à la récolte. Il faut attendre cette période de dormance. Et après, on le passe dans une presse. Tout est en extraction mécanique. Il n'y a aucune intervention chimique. Donc on le passe dans une presse. C'est une vis sans fin qui bloque les graines contre une cage qui est ajourée. Un jus sort.
mais il est plutôt noirâtre parce que dedans il y a aussi l'écorce qui a été pressée. On récupère ce jus et ce jus on le passe à travers des tissus en des tissus qui sont tissés et qui font à peu près une maille de 2 microns. Et donc l'huile va se purifier de cette manière-là. Et donc elle va être très limpide, comme ce qu'on connaît, avec sa couleur dorée.
Alors j'ai une question à te poser, tu me parles de graines. Combien par exemple il faut de, pour faire un litre d'huile, combien il faut de kilos de graines?
Alors pour faire un litre d'huile, il faut 3 kilos.
D'accord, ah ouais, c'est enfin, comme ça.
Voilà,
c'est 3 kilos de graines pour un litre d'huile.
Voilà.
Et combien de sortes d'huiles différentes vous produisez?
Alors, on a du tournesol. Sur le tournesol, on a deux variétés de tournesol. On a le tournesol oléique et le tournesol linoléique. Ce sont des termes un peu techniques. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, une chose assez simple, c'est qu'il y en a un qui peut supporter la température et l'autre un peu moins. Donc voilà, c'est deux variétés différentes. C'est le même tournesol, mais deux variétés différentes. Ensuite, on fait du colza et de la cameline.
La cameline, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est quoi en fait la cameline?
Alors c'est une plante qui est de la même famille que le colza, mais elle a un cycle assez court, puisqu'elle est sur 4-5 mois à peu près de production, et elle fait une petite graine qui est pas plus grosse qu'une graine de lin, donc assez petite, qui va être très très riche en oméga 3, puisque génétiquement elle n'a pas encore intéressé l'industrie, donc il n'y a pas eu de travail génétique dessus. Donc sa teneur en oméga 3 est restée comme il y a très longtemps. Quoi.
Et donc toutes les huiles que vous faites, c'est avec les graines que vous produisez?
Oui.
Et exclusivement, il n'y a pas d'apport extérieur?
Alors, il nous est arrivé en colza. Le colza est une culture qui est très difficile à faire en agriculture biologique parce que sur l'agriculture conventionnelle, elle est sujette à pas mal d'attaques d'insectes. Et donc, ils sont traités entre 15 et 20 fois selon les exploitations. Donc en agriculture biologique, quand il n'y a vraiment plus de traitement, c'est un peu plus difficile. Donc ça nous est arrivé deux années de semer du colza, mais de ne pas avoir de récolte. D'accord. Notamment, c'était attaqué par les altices. Par contre, on est en réseau avec d'autres agriculteurs qui sont autour de Châtellerault et tous intègrent le colza dans leur rotation, ce qui fait que quand nous, on n'en a pas eu, parce que la pression d'insectes était trop importante chez nous, et ben on prend celui de notre collègue qui est dans autour de Châtellerault. Voilà, il n'y a que le colza qui pose un problème,
d'accord,
pas les
autres. Quand tu préciser, peut-être pour les auditrices qui ne sauraient pas, quand tu parles de rotation, c'est que c'est des cultures intermédiaires entre ce qu'ils ont l'habitude de faire habituellement, c'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas forcément des producteurs de colza à la base, c'est ça, mais qui vont mettre du colza entre deux périodes de culture, c'est ça? Tu peux expliquer un petit peu plus le principe?
Oui, alors, nos collègues sont en agriculture biologique, bien sûr, et puis, c'est-à-dire que dans leur rotation, ils vont intégrer le colza parce qu'ils savent que si ça marche, nous, on va leur prendre pour faire la production d'huile.
Oui, mais la rotation, justement, le principe, c'est...
Le principe, c'est qu'on fait une succession de cultures pour que la première ne revienne pas tout de suite. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire une culture d'hiver, du blé. Après, on va partir sur une culture de printemps, le tournesol. On va repartir sur une culture d'hiver. Et après, on va... Enfin, nous, sur notre exploitation, au bout de la quatrième année, on va mettre une prairie pendant 5 ans.
D'accord.
Et qu'au bout de ces 5 ans, on va revenir sur du blé.
C'est pour préserver les sols, c'est ça l'intérêt?
C'est pour préserver les sols, pour préserver aussi les adventices, c'est les plantes non désirables. Alors certains disent des mauvaises herbes, moi j'appelle ça des plantes non désirables. Et donc pour varier, et puis pour les problèmes de maladies. Donc c'est un moyen de lutte générale, quoi.
Et là actuellement, on entend beaucoup parler sur la Vienne prône pour faire du chanvre.
Oui.
Est-ce que vous avez été contacté pour en faire ou vous allez envisager de le faire ou vous n'êtes pas tombé directement dans ce processus-là?
Pour faire de l'huile de chanvre.
L'huile de chanvre et puis aussi la récolte du chanvre en lui-même.
Alors, on s'était penché la question pour faire de l'huile de chanvre, sauf que... On a contacté des agriculteurs qui en faisaient et ils nous ont expliqué que ça...
Au niveau de la presse, comme l'écorce de la graine de chanvre est très 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 dure, au niveau de la presse, ça a abîmé la presse, ça, en fin de compte, ça a créé des stries au niveau de la presse, qui fait que quand on prend ensuite du colza ou de la cameline qui n'ont pas des écorces très épaisses, et ben on a des difficultés à repasser sur la même presse ces autres. Donc on avait un peu éliminé ça. Et puis l'autre élément, c'est que c'est une plante qui est très fibreuse. Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour en éco-matériaux pour la construction. Mais les moissonneuses batteuses que l'on a actuellement ne sont pas résistantes à des plantes suffisamment fibrées comme ça. Et donc du coup, bon, ça nous a semblé un peu plus compliqué que de le dire, quoi.
Alors moi, j'ai envie de savoir, vous êtes combien dans l'exploitation ? Combien vous êtes à travailler ? Ça doit être un gros boulot à faire quand même.
Oui, parce qu'on transforme la totalité de notre récolte en tournesol.
Ce qui représente à peu près combien par année
8000 litres à peu près.
Fois 3, donc on
est
à...
Non, 8000 litres. Ouais, 8000 oui,
litres
ça. Ouais.
Ça fait quand même pas mal. Hein,
quelques quintaux, ouais. Et c'est-à-dire que ça veut aussi dire qu'on n'est pas que agriculteur, on est aussi transformateur, on est aussi commerçant et on est aussi un peu gestionnaire, parce qu'il faut faire de l'articulation entre les graines, les semences, les animaux, la prairie. Donc voilà, ça demande une multitude de compétences.
C'est vrai que vous avez des vaches aussi.
Oui, c'est ça. Ouais, on a une trentaine de vaches.
Depuis combien de temps ? Raconte-moi un peu plus.
Depuis 2014.
Depuis 2014 ?
Ouais, 2014.
Et vous vendez les morceaux dans les collèges ? Vous les vendez où, ces petits morceaux de viande ?
Alors, la totalité de la production part en vente directe, mais directement en particulier.
En plus, c'est des vaches bien particulières. C'est une race particulière.
Oui, on fait de la salers. Alors, certains disent salers, d'autres salers, ça dépend. Si on est chauvin ou pas. Ce sont des vaches qui viennent du massif. Enfin, là où il y en a le plus, c'est dans le massif central. Et elles ont une caractéristique, on les voit très bien. Elles sont rousses et elles ont les cornes. Elles ont des cornes. Et en forme de guidon de vélo.
D'accord. Pour monter les cols, ouais. D'accord.
Ouais, oui. Ouais, ça c'est pratique.
Et vous avez combien de bêtes ?
Une trentaine.
Une trentaine. Et vous êtes du côté de Châtellerault. C'était toujours du côté de Châtellerault. Vous étiez obligé de venir là pour les terres. À la base, vous auriez pu peut-être avoir des terres ailleurs.
Mon mari a repris l'exploitation familiale.
D'accord.
C'est vrai que Sénillier, enfin moi j'ai tendance à dire que Sénillier est vraiment une terre de producteurs et d'agriculteurs. Il y a énormément de producteurs locaux. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Mais on trouve un peu de tout dans le coin de Sénillier.
Et il y a beaucoup de gens qui font de l'huile, vous savez ça ? Vous êtes à peu près les seuls, vous ? C'est une question que je me posais quand même.
Alors, sur le département, je pense qu'il y en a d'autres qui commencent à s'installer maintenant, mais il y avait surtout une autre huilerie, colza tournesol, parce que la noix et la noisette, c'est un autre procédé. Mais donc quand je dis de l'huile issue de graines, il y a une autre huilerie sur le secteur de Chauvigny, mais qui est en agriculture conventionnelle.
D'accord. Voilà.
Oui. Il y a aussi une production d'huile, mais qui est liée pour faire des biocarburants à Chalandré. Alors, ce n'est pas du tout la même logique, mais peut-être que, malheureusement, bon, peut-être, disons, c'est peut-être de l'huile qui aurait pu être fait pour l'alimentation, mais il y a une grosse coopérative qui fait de l'huile pour les carburants. Par exemple, j'ai une petite question. Oui, justement, pour prolonger la question sur le finalement, est-ce que justement c'est le fait que d'être à Senillier et d'avoir les sols qui sont à Senillier qui vous a poussé à faire de l'huile, et que si ça avait été par exemple des sols différents, vous auriez fait, je sais pas, par exemple du maïs, peut-être pas du maïs, ou des cultures maraîchères peut-être, ou des...
Alors, ce qui nous a poussé à faire de l'huile, ce n'est pas parce qu'on est à Senillier. C'est un autre élément complètement indépendant. C'est qu'au départ, quand mon mari s'est installé, eh ben, toute la production partait à la coopérative. Donc, qui dit partir à la coopérative, c'est d'être dépendant du tarif, du cours du marché. Et vous savez que le marché, il n'est pas lié au coût de production, mais il est plutôt lié à spéculation ou pas spéculation. Donc, quand on est dépendant de cours du marché, on n'a pas la maîtrise des prix. Et donc, du coup, c'est difficile de consolider un revenu. Et en ce moment, on a bien des problèmes et vous n'êtes pas... indifférent aux actualités que l'on peut avoir. Et donc l'idée était de dire de trouver une production qui nous déconnectait du cours du marché et nous redonner un lien avec le consommateur. Qui nous dit retrouver du lien avec le consommateur, ça veut dire retravailler l'exploitation et changer de la fonction principale qui nous a été donnée depuis les années post-guerre, être uniquement producteur.
Il y a eu à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, une pénurie d'huile.
Oui.
Est-ce que ça arrivait chez vous ? Vous avez eu beaucoup de demandes ?
On a eu énormément de demandes à
vous
ce moment-là.
Vous avez tout écoulé ?
Ouais, je confirme, il y a eu énormément de demandes.
Vous, à Renaudot, oui.
J'ai failli me retrouver avec rien. Normalement, qu'on se connaissait avant, j'étais un peu prioritaire.
Ouais, il a fallu qu'on mette le haut. Là, on ouvre le magasin à la ferme une fois par mois et on a vu des queues de voitures avec des gens arrivés avec des bidons pour qu'on les remplisse. C'était hallucinant. Et donc, ça nous est arrivé une fois. Après, on a mis le hall là.
Les gens prenaient le stock un peu comme le papier de toilette quand il y avait le Covid.
Voilà,
d'accord.
C'était ça.
C'est impressionnant. Quand
et
même.
Alors, sur les... parce que tu fais de la vache à viande. Donc, il y a une cohérence peut-être de tout ça. Est-ce que, par exemple, on parlait de tourteaux la semaine dernière, c'était des tourteaux fromagers. Là, il y a des tourteaux de fabrication de huile. Est-ce que les vaches, les salaires, se mangent les tourteaux ? Est-ce qu'il y a ce côté... On va dire, est-ce que par exemple le fumier des vaches sert à fertiliser vos champs ? Est-ce qu'il y a ce côté-là ? Est-ce que c'était une recherche ou est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que par exemple, de la manière qu'on peut être menuisier et carreleur, ça n'a pas forcément de lien entre les deux, mais est-ce que là il y a un lien ? Voilà.
Oui, là le lien il était là. C'était les sols s'appauvrissaient parce qu'il n'y avait pas d'apport de matière organique. Donc l'arrivée de l'élevage, il avait une fonction agronomique. Et puis, les tourteaux, j'ai tenté de dire que mes vaches en consomment très peu, parce qu'on a tout ce qu'il faut sur la ferme, on a de la luzerne, on a du protéagineux, on n'a pas forcément toujours besoin du tourteau. Donc le tourteau, on en garde une petite partie pour les animaux, parce que je vais peut-être surprendre, mais moi je pars de la base qu'une vache, ça mange de l'herbe. Donc, si une vache mange de l'herbe, il faut faire en sorte que son alimentation soit à base d'herbe et pas de compléments que l'on peut avoir. Donc, c'est pour ça qu'on consomme un peu de tourteaux, puisqu'on on met en place des prairies qui sont suffisamment riches pour avoir des foins riches et moins complétés avec des céréales ou des tourteaux. Et les tourteaux, on s'en vendu à mon collègue qui est en volaille, qui, lui, n'a pas la possibilité de faire du tourteau sur sa ferme. Il est obligé de faire venir du tourteau de quatre coins de la France, parfois même de l'étranger. Et donc, il y a un partenariat qui s'est établi entre les deux. Lui, il prend les tourteaux pour nourrir ses volailles. Et moi, nous, on a les animaux pour apporter de la matière organique dans les sols.
Et est-ce qu'il manque quelque chose pour boucler la boucle, entre guillemets, ou j'ai cru comprendre que tu faisais des veaux aussi, donc est-ce que les veaux sont alimentés avec le lait des vaches du troupeau ?
Oui, les veaux sont alimentés uniquement par les mères. Par contre, ce ne sont pas des veaux qui sont en batterie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas renfermés, ils suivent les mères. Et quand les mères sont dans la prairie, bah forcément les veaux sont avec, et les veaux se grignotent l'herbe, et donc du coup ça fait une viande pas blanche, mais une viande rosée, mais qui se tient.
Ça donne envie de venir voir l'exploitation quand même. On viendra peut-être faire un saut. On aime bien les cuits du cru, nous aussi, et partir en mode reportage. Merci Béatrice pour cette première partie.
Oui, bon, peut-être, puisqu'on parle de veau ou de vache ou de bœuf, hein, peut-être que notre chef a une recette.
Ah, avec de l'huile.
Comment
aussi.
Est votre blanquette ?
Elle est bonne.
Alors, ben, tiens, en parlant de blanquette, on peut faire une petite blanquette de veau, par exemple. Alors, il y a deux façons. Moi, j'ai une façon où on fait revenir de la viande avec de l'huile. Certains cuisiniers le font. Moi, je ne suis pas pour. Moi, je préfère blanchir la viande pour faire après un bon bouillon avec une bonne garniture aromatique, un peu de carottes, un peu d'oignon, du thym, du laurier. Et nous, ce qu'on appelle dans notre jargon, on rince bien la viande pour faire sortir toutes les impuretés. On fait bouillir tout ça. Et après, une fois que la viande est bien cuite, je retire ma viande. Je récupère bien du bouillon. Je fais un petit roux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le roux, c'est farine et beurre. Ça sert à lier la sauce dedans. vous mettez des petits oignons grelots, un petit peu de champignons, vous remettez ça sur votre viande, vous maintenez à température, un petit bol de riz à côté, et voilà, on a une bonne blanquette de veau local avec tout ce qu'il faut dedans.
Invraisemblable d'aller dans la chambre pour manger du congé, autant manger chez soi.
Le fait maison, un gage de fraîcheur et de qualité.
Il est étoilé en plus.
Et vous êtes sur Radio Pulsar 95.9, nous sommes au milieu de l'émission Cuit du Cru, un jeudi sur deux, et donc nous sommes avec Béatrice Martin de Senillé, qui est productrice d'huile et de viande, de vache à viande. Donc c'est l'heure d'un petit peu de la question surprise pour notre invité. Alors Béatrice, en fait, vous êtes à Senillé, vous produisez de la viande, enfin des vaches à viande, vous produisez aussi de l'huile. Et alors, la question que je vous pose, c'est qu'à Senillé, c'est pas très loin de Coussey-les-Bois, où il y avait ce projet de 1000 vaches. Voilà. Et de l'autre côté aussi, par rapport à l'huile, on le disait tout à l'heure, il y a la coopérative de Chalandré qui produit l'huile, mais pour mettre ça dans des moteurs. Est-ce que ces deux modèles-là sont des modèles qui vous portent un tort ? Est-ce qu'il y a une lutte un petit peu ? Est-ce qu'il y a quelque chose voilà. Comment vous êtes positionné par rapport à ça ? Voilà.
Ouh, c'est vraiment la question piège.
Hein. Bon, c'est pas si piège, je pense connaître à peu près la réponse. Mais...
Alors, c'est deux projets qui sont différents.
Vous êtes pris en étau, disons.
Voilà, pris en étau entre les deux. Moi, je ne fais pas de l'huile pour du biocarburant parce que je pars du principe que la terre est faite pour nous nourrir et pas pour nourrir le tracteur qui va faire de l'alimentation. Donc, on peut peut-être raccourcir le circuit. Donc, il y a parfois, dans les énergies vertes, des bonnes, fausses, mauvaises solutions. Et puis, en ce qui concerne l'exploitation des 1200 taurillons, ça ne correspond pas du tout à la vision que moi, je peux avoir de l'élevage. Puisque avoir des animaux qui sont engraissés par des déchets récupérés dans les coopératives, dans les silos, pour ensuite les envoyer en Italie, qui vont nous revenir après en France, en steak haché ou je ne sais trop quoi. Voilà, je n'y retrouve pas forcément mon compte, surtout que là, on peut parler du bien-être animal. On est loin de mes vaches qui sont dans les prairies, hein, on est bien d'accord. Et la viande est en concurrence directe, pas par rapport à moi, je suis par rapport au Vendée, mais sur la filière viande, parce que la viande n'est qu'un sous-produit, parce que le produit d'origine, c'est l'énergie, produire de l'énergie, avec la méthanisation et les panneaux solaires. Donc, non, je suis désolée, question piège, non, c'est que tu veux, je valide
est-ce que,
pas.
Non, mais est-ce que ça a pu, après, au niveau des, on parlait des coopératives, après, est-ce que ça vous a un petit peu nuit, ou est-ce que vous pouvez faire votre chemin dans votre modèle qui est plus vertueux, et à côté, et eux, ils font leur truc, mais ça ne vous concerne pas, finalement. Est-ce que ça a un impact négatif sur votre quotidien, quoi, finalement ?
La seule chose qui peut nuire, c'est que, quand on présente ce modèle-là des 1200 taurillons, il y a un courant, notamment dans le milieu des villes, qui sont un peu coupés du fonctionnement de la production, qui ont un réflexe anti-viande. Mmh. Et donc, du coup, à ce niveau-là, ça peut nuire, parce qu'il n'y a plus de différence qui est faite entre une production respectueuse de l'environnement et respectueuse des animaux et ce type de production-là. C'est dans ce sens-là que ça peut nous nuire, quoi.
Tu t'en es bien sorti pour la question piège. Et donc là, ce week-end, normalement, il y a un événement de ferme en ferme. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet événement-là ?
Voilà, on est un réseau d'agriculteurs parce que c'est pas toujours facile de pouvoir travailler tout seul. Donc on est un réseau, on s'entraide les uns et les autres et on fait partie de ce réseau qui s'appelle le CIVAM, Centre d'initiative et de valorisation de l'agriculture et du milieu rural. Et on fait ce qu'on appelle une méga porte ouverte de toutes les fermes qui sont dans le réseau, sur tout le département.
C'est comme les journées du patrimoine, quoi, en fin de compte.
Voilà, c'est un peu
sauf
ça.
Sauf que c'est pour les fermes.
C'est pour les fermes, et puis on se promène d'une ferme à une autre. On peut faire des itinéraires complets, on peut y aller en famille. Certaines fermes ouvrent leurs portes pour proposer des repas, donc bien sûr c'est sur réservation. Mais c'est l'occasion de voir... c'est pas un raisonnement filière, c'est vraiment un raisonnement territoire. Donc vous pouvez à la fois avoir une ferme maraîchère, un apiculteur, un producteur de viande... Et je ne sais trop quoi encore.
Alors le 27 et 28 avril, Ferme ouverte le samedi de 14 à 18, c'est oui. bien ça, et le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Voilà.
On peut manger sur place, bien sûr.
Pour certaines.
Certaines fermes. Mmh. Et c'est plus dans le pays, Châtellerault, Montmorillon, les fermes du Seuil de Poitou. Ah, je connais pas trop ça. Pays chauvinois aussi. Ouais, y a pas, c'est vraiment dans les terres, vraiment. Donc là, vous y serez, vous. On viendra peut-être faire un petit tour, nous, cul du cru.
Un petit reportage
peut-être, peut-être chez vous. T'en penses quoi, Christophe?
Je sais pas, ça dépendra de mes disponibilités.
Alors c'est vrai qu'on est, on est beaucoup occupé à cul du cru, mais on va essayer de faire des petits reportages comme ça, directement sur le terrain.
Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va lancer une cagnotte sur Eloasso qui nous permettra de financer là, un petit peu l'acquisition ou l'entretien du matériel d'enregistrement.
Bien sûr.
Voilà, et puis les déplacements aussi, parce que l'essence n'est pas gratuite.
Moi, je voudrais dire juste une dernière chose. Je voudrais féliciter Christophe, parce qu'il n'est pas toujours facile d'introduire des produits qui ont du goût dans la restauration collective. Et donc, son savoir et son savoir-faire et sa volonté de vouloir initier les élèves au goût, c'est à féliciter. Merci.
Ben, c'est moi, hein. Merci. Et moi, je suis, comme je dis souvent, je remercie aussi tous les agriculteurs qui se mettent sur les plateformes agri-locales 86. Ça nous permet, nous, dans les collèges, de pouvoir vraiment faire déguster des super produits et de qualité, déjà, surtout, très grosse qualité, et des produits de chez nous, en plus.
Bien sûr, c'est
de notre département, quoi.
De savoir qui fait ça. On voit les gens en personne.
Voilà. Et nous, on les remercie de venir à cette émission,
bien
parce
sûr.
Que ça permet de présenter leur métier, de savoir... voilà, c'est pas... Oui. Parce que c'est, tout ça, c'est sur leur temps libre, qui est déjà peut-être réduit.
Des grosses journées...
On peut te retrouver où, Béatrice? Tu as des réseaux sociaux?
Oh là là, j'ai trop de cheveux blancs pour être très...
Ou une boutique, peut-être.
une boutique.
Tu parlais de la boutique, voilà.
Voilà, alors sur Poitiers, je suis à la boutique Les Alfermières, hein, qui est à la zone de Auchan, sinon dans toutes les Biocoop.
Alfermières qu'on a reçues, bien sûr, monsieur et madame Nolo, de la ferme du Patureau.
Voilà. Et puis, après, j'ai aussi marché équitable sur Montmorillon.
Ok.
Voilà, et puis autour de Châtellerault, bien sûr.
Merci Béatrice, merci Christophe.
Ciao, à bientôt.
On se retrouve dans deux semaines, la semaine prochaine c'est Zazou.
Voilà, ouais. Allez, bonne sieste.
Come on.